Bonjour, c'est Cyril Riva, traduisant le podcast de Van Carache, rédacteur en chef d'anesthésiologie. Nous nous retrouvons pour présenter les articles importants du numéro d'octobre 2022 qui ont été sélectionnés par les rédacteurs de la revue. Ce mois-ci, nous mettons en lumière les recherches portant sur la ventilation mécanique péropératoire chez les patients subissant une chirurgie orthopédique, les résultats de l'anesthésie générale par rapport à la sédation pour l'intubation chez les enfants aux voies respiratoires difficiles et la dépression respiratoire induite par les opioïdes. Tout d'abord, Evan Carache aimerait féliciter David O'Warner de la Mayo Clinic, lauréat du prix d'excellence en recherche de cette année, ainsi que Christine Schreiber du Brigham and Women's Hospital et le Dr Vivian Tofik de l'Université de Stanford, co-récipiendaire du prix James E. Cottrell Presidential Scholar Award. Si vous assistez à Anesthésiologie 2022, n'hésitez pas à venir à la célébration pour écouter les présentations de leurs travaux. Notre première étude clinique explore la ventilation mécanique péropératoire et son impact sur l'oxygénation des patients adultes subissant une chirurgie orthopédique. Les études antérieures sur les effets de divers volumes courants péropératoires et pression expiratoire positive sur l'hypoxie postopératoire et les lésions pulmonaires n'étaient pas claires. Alparslan Turan et ses collègues de la Cleveland Clinic ont émis l'hypothèse qu'une ventilation avec un volume courant plus faible et une pression expiratoire finale positive plus élevée conduirait à une meilleure oxygénation postopératoire et réduirait le risque de complications respiratoires. Les chercheurs ont mené un essai en plan factoriel 2 par 2. Plus de 2800 patients ayant subi une chirurgie orthopédique sous anesthésie générale ont été recrutés. Ils ont été affectés à des groupes factoriels avec des volumes courants de 6 ou 10 ml par kg de poids corporel prédit et à une pression expiratoire finale positive de 5 ou 6 cm d'H2O par groupe d'une semaine. Le principal résultat était la moyenne pondérée dans le temps de la saturation en oxygène périphérique divisée par la fraction d'oxygène inspiré, rapport PaO2 sur FiO2, pendant la première heure post-opératoire. Les résultats ont montré que l'oxygénation ne différait pas entre des volumes courants de 6 et 10 ml par kg et une pression expiratoire finale positive de 5 et 8 cm d'H2O. Les auteurs ont conclu que toute combinaison de volume courant entre 6 et 10 ml par kg et de PEP entre 5 et 6 cm d'H2O était sûre pour la chirurgie orthopédique. Dans un éditorial d'accompagnement, Guido Much et Marcos Vidal Melo déclarent que ces résultats ne montrent aucune différence significative entre les 4 groupes testés. Ils affirment au contraire que la ventilation protectrice n'est pas définie par des chiffres uniques, mais par des fourchettes dépendant des conditions et des caractéristiques du patient. Écoutez le podcast avec l'auteur de l'étude et l'éditorialiste. Notre prochaine étude clinique examine les résultats de l'anesthésie générale par rapport à la sédation pour l'intubation chez les enfants ayant des voies respiratoires difficiles. L'intubation trachéale sous sédation et l'intubation trachéale éveillée sont considérées comme sûres chez les adultes ayant des difficultés respiratoires, mais on sait peu de choses sur les résultats chez les enfants. Cette étude, dirigée par Luis Sequeira Ramos du Children's Hospital of Pennsylvania, s'est appuyée sur les données du registre des intubations difficiles en pédiatrie. Entre 2017 et 2020, 34 hôpitaux ont soumis 1839 cas anticipés de voies aériennes difficiles. L'appariement par score de propension a permis de placer 58 patients dans le groupe sédation et 522 patients dans le groupe anesthésie générale. Le taux de réussite de la première tentative était de 48% dans le groupe sédation et dans le groupe anesthésie générale. Le nombre médian de tentatives d'intubation était de 2 dans les deux groupes et le pourcentage d'intubation ratée n'était pas non plus différent. Cependant, 27% des cas de sédation ont dû être convertis en anesthésie générale pour compléter l'intubation trachéale. Dans un éditorial d'accompagnement, Alan Simpao du Children's Hospital of Pennsylvania conclut que, d'après les résultats des auteurs, l'anesthésie générale peut constituer une bonne modalité de sauvetage, mais les résultats montrent la nécessité d'un essai prospectif. Écoutez le podcast avec l'auteur de l'étude et l'éditorialiste. Dans notre étude clinique suivante, les chercheurs ont exploré le risque d'accident vasculaire cérébral dans des populations à haut risque de chirurgie non cardiaque. Sous la direction de Philip Lissite de la faculté de médecine de l'Université du Michigan et de ses collègues, les chercheurs ont émis l'hypothèse que la combinaison d'une hypotension péropératoire et d'une hypo- ou hypercapnie est associée à un accident vasculaire cérébral ischémique post-opératoire. Menée par l'intermédiaire du Multicenter Perioperative Outcomes Group, cette étude rétrospective cas témoins a recensé 1 244 881 cas neurologiques non cardiaques, non intracaniens et non vasculaires majeurs dans 5 centres universitaires entre janvier 2004 et décembre 2015. Les cas dépistés positifs pour un AVC ont été soumis à un examen manuel des dossiers. Le nombre d'AVC confirmés était faible, environ 0,01% des cas. L'étude a révélé que l'hypotension péropératoire et l'hypo- et l'hypercapnie étaient associées à l'AVC ischémique postopératoire. Les auteurs ont conclu que l'hypotension péropératoire et la dysrégulation du dioxyde de carbone peuvent être associées au risque d'AVC postopératoire. Notre étude suivante a évalué les effets des médicaments sur la ventilation. Les opioïdes sont couramment utilisés pour traiter les douleurs modérées à sévères. Cependant, ils peuvent également provoquer une dépression respiratoire qui, dans les cas extrêmes, peuvent être fatales. La dépression respiratoire induite par les opioïdes est liée à l'inactivation de la génération du rythme respiratoire dans le tronc cérébral. Il a été envisagé d'utiliser des stimulants respiratoires pour traiter ou prévenir la dépression respiratoire induite par les opioïdes. Des chercheurs dirigés par Ike Algera du Centre médical de l'Université de Leiden aux Pays-Bas ont émis l'hypothèse que l'antidépresseur tianeptine pourrait être utilisé pour prévenir ou contrer la dépression respiratoire induite par les opioïdes. Ils ont d'abord testé les effets de la tianeptine orale sur la dépression respiratoire induite par l'alfentanil chez des volontaires en mesurant la réponse ventilatoire hypercapnique. Ils ont ensuite étudié les effets de perfusion croissante de tianeptine intraveineuse sur la dépression respiratoire induite par le rémifentanil. Les deux études ont été menées en double aveugle, de manière aléatoire et contrôlée par placebo. Ni la tianeptine orale, ni la tianeptine intraveineuse n'étaient des stimulants respiratoires. En fait, la tianeptine intraveineuse a aggravé la dépression respiratoire due au rémifentanil. Les auteurs concluent que ni la tianeptine orale, ni la tianeptine intraveineuse n'étaient des stimulants respiratoires, mais leur approche offre une vision de la manière dont les futures études testant des stimulants respiratoires non opioïdes peuvent être menées. Notre prochaine étude porte également sur l'utilisation des opioïdes. Après une arthroplastie totale du genou, les patients ont souvent besoin d'opioïdes pour réduire la douleur. Des études antérieures ont montré qu'environ 8% des patients ayant subi une arthroplastie totale du genou utilisent des opioïdes dans les 6 mois suivant l'opération. Dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé en double aveugle, Felipe Munoz Leiva, de l'Université de Toronto et ses collègues, ont émis l'hypothèse que l'ajout de 5 nouvelles interventions analgésiques au traitement standard réduirait les besoins en opioïdes post-opératoires chez les patients subissant une arthroplastie primaire unilatérale élective du genou. Un groupe témoin a reçu une anesthésie rachidienne avec morphine intrathécale, une infiltration périarticulaire d'anesthésie locale, de la dexaméthasone intraveineuse et un bloc du canal adducteur en une seule injection. Un groupe d'études a reçu les mêmes traitements plus 5 interventions supplémentaires, notamment une infiltration d'anesthésie locale entre l'artère poplitée et la capsule du genou intérieur, de la dexmedetomidine et de la kétamine en péropératoire et en postopératoire, un bolus supplémentaire de dexaméthasone intraveineuse et 2 injections supplémentaires de blocs du canal adducteur. Le principal critère d'évaluation était la consommation cumulée d'opioïdes sur 24 heures après l'opération, et les critères secondaires étaient les autres analgésiques, le rétablissement du patient, les résultats fonctionnels et les événements indésirables. L'étude a inclus 39 patients dans chaque groupe. Les résultats ont montré que la consommation d'opioïdes n'était pas différente entre les deux groupes à 24 heures. En outre, il n'y avait pas de différence majeure dans les scores de douleur, la qualité de la récupération ou le temps nécessaire pour atteindre les étapes de la réadaptation. Les auteurs concluent que les 5 interventions supplémentaires n'ont pas apporté de bénéfices additionnels. L'examen clinique de ce mois-ci met en lumière les données récentes issues d'études prospectives sur l'utilisation de la ventilation à faible volume courant et de différents niveaux de pression positive d'expiration chez les patients atteints ou non du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ces données sont ensuite comparées aux études sur la ventilation péropératoire à un seul poumon pendant la résection pulmonaire. Les auteurs Spencer Walsh, David Chaz et David Amar donnent un aperçu de la ventilation mécanique en salle d'opération, en particulier chez les patients nécessitant une ventilation à un seul poumon. Selon les auteurs, des données récentes indiquent que les résultats cliniquement importants ne diffèrent pas entre les patients qui sont ventilés avec un volume courant faible ou élevé et une pression positive d'expiration faible ou élevée. Les anesthésistes peuvent modifier les facteurs de risque connus, tels que la restriction liquidienne et les réglages ventilatoires, ainsi que des facteurs moins évidents, comme le choix des agents anesthésiques inhalés ou intraveineux. Enfin, l'article de synthèse de ce mois-ci porte sur l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire, le tabagisme. À l'échelle mondiale, le tabagisme tue plus de 8 millions de personnes par an, y compris les personnes exposées au tabagisme passif. David O'Warner de la Mayo Clinic souligne que les anesthésistes peuvent lutter contre cette pandémie en abordant la question du tabagisme avec leurs patients dans le cadre de la périanesthésie. Des recherches récentes ont montré que les fumeurs sont exposés à un risque accru de complications pulmonaires ainsi qu'à un risque accru d'hémorragie chirurgicale. L'étude comprend des stratégies pratiques sur la façon dont les anesthésistes peuvent aider à conseiller les patients à réduire leur consommation de tabac. Le Dr Warner conclut que les anesthésistes peuvent jouer un rôle unique dans cette lutte s'ils choisissent de le faire. Consultez en ligne le numéro d'octobre sur anesthesiology.org pour trouver ces articles et bien d'autres encore, notamment des informations sur les travaux de nos lauréats des prix Celebration of Research et James E. Cottrell Presidential Scholar. Vous trouverez également un article mettant en avant les activités parrainées par la revue dans le cadre d'Anesthesiology 2022. Si vous êtes à la Nouvelle-Orléans pour Anesthesiology 2022, n'hésitez pas à assister à la nouvelle session de notre journal Big Data Studies, How to Design, Conduct and Read Them. Ce guide complet offre un aperçu des compétences nécessaires pour utiliser ou créer des études Big Data de plus en plus populaires. Pendant que vous y êtes, consultez également notre session Clinical Trial in Anesthesiology, New Findings, New Understanding. Animée par Marcos Vidal-Melo, cette session présente 4 essais cliniques récemment publiés, présentés par l'un des auteurs et contrebalancés par un autre intervenant. Enfin, n'oubliez pas de vous arrêter au stand de notre journal dans le hall d'exposition. Evan Karach reviendra en novembre pour présenter d'autres recherches publiées dans le journal. Merci de votre attention.